digitale, c'est les innovations, comme Sabrina a commencé à l'évoquer dans son rapide discours. Quand on parle d'innovation, on va principalement se focaliser sur l'innovation digitale, évidemment. On va aussi parler de la data. On a la chance d'avoir avec nous autour de la table. Alors, je vais me permettre de vous présenter, mais si je commets un impair, évidemment, vous n'hésitez pas à me corriger quand je passerai le micro tout à l'heure. Donc, sans ordre particulier, mais en commençant quand même par Sabrina. Donc, Sabrina Sedoud, qui est Head of Innovation chez Indosuez Wealth Management Group, donc la filiale gestion de fortune du groupe Crédit Agricole. Léonard Dutti, qui lui est cofondateur et CEO de Sunshot, donc un robot advisor français, un des plus gros robot advisors en France. Brice Pinot au centre, dont je vais beaucoup parler, qui est le CEO et cofondateur de Harvest, donc un éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion patrimoniale qui existe depuis une trentaine d'années. À sa droite, Clément Cœur d'Oeil, cofondateur et président de Budget Insight, un agrégateur de données bancaires également parmi les pionniers en France. Et l'astronautiste, hein, François-Henri Parboissin, qui est donc CEO adjoint, on l'a précisé juste avant, je rebondis sur ce que tu disais, pour Société Générale, Private Banking France. Comme vous voyez, on a la chance d'avoir avec nous un panel très divers entre des acteurs historiques qui vont pouvoir nous parler justement des challenges qu'ils font face au secteur de la banque privée, mais aussi des fintechs et des services logiciels qui sont là pour accompagner ces acteurs dans leur transformation et dans la réponse à ces challenges. Alors, sans faire une introduction longue, on va passer directement à ce qui nous intéresse aux questions et surtout aux réponses. J'en ai une première, alors elle est à la fois pour Sabrina et pour François-Henri, donc je vais vous demander si vous souhaitez répondre en premier. Vous pensez que dans la gestion patrimoniale, dans la banque privée en particulier, et la gestion de fortune, la relation client a toujours été un élément très fort, et c'est d'ailleurs une attente forte du client d'avoir une relation proche avec son banquier et de sentir que ce qu'on lui propose est vraiment tailor-made et à sa mesure. Aujourd'hui, est-ce que vous avez, si vous travaillez en interne, donc sur vos deux rôles respectifs de Chief Digital Office et Head of Innovation, sur des cas d'usage autour de la data qui vous permettent d'aller plus loin dans ce sur-mesure pour le client, mais aussi en apportant un peu d'innovation, de digitalisation pour sortir un peu du modèle traditionnel de la relation humaine, ce qui peut s'ensuivre avec le client et le banquier.
Donc déjà, peut-être pour en préambule, donc le monde de la banque privée est au même titre que le retail. Donc, quand j'étais avant en retail, toujours en retail, on retrouve énormément de similitudes, juste avec du retard, hein, quelque part. Et je dirais que sur la data, alors déjà aujourd'hui, le banquier il fait face à un point réglementaire et administratif qui est quand même assez sans précédent. On a pu connaître dans le retail, mais à moindre mesure. Là, maintenant, le banquier, sur l'image de temps avec son client, c'est 40 minutes d'administratif. Donc, je dirais que s'il y avait vraiment une urgence aujourd'hui, c'est d'aider le banquier en digitalisant un certain nombre de process, c'est-à-dire un peu lesquels, et en captant la data dès le départ. Donc, voilà, c'est aider le banquier à piloter sa relation avec le client, mais surtout à passer un moment plus agréable avec son client. Parce que, clairement, le client, il est un peu perdu, il y a de plus en plus de réglementations, mais le banquier aussi, il est un peu perdu. Qui essaie tant bien que mal de faire son métier, mais parfois il a du mal à faire correctement son métier parce qu'il n'a pas trop le temps, ce temps de qualité, ce temps de cerveau avec son client. Donc nous, on a vraiment trois gros projets, et c'est sans surprise dans le monde de la banque privée, tous les concurrents ont à peu près les mêmes projets structurants. On a l'entrée en relation, donc c'est évidemment la première vitrine que voit le prospect au client, et on essaie de digitaliser un maximum. Et le but, si on parle de la donnée, c'est de capter la donnée en amont pour éviter de la redemander N fois derrière. Évidemment, tout ça en relation avec le CRM. En vient maintenant mon deuxième gros sujet, et pas des moindres, le CRM. Donc le CRM, nous, on s'appuie sur un acteur technologique externe pour aller beaucoup plus vite. Une start-up qui est vraiment dédiée au wealth. C'est un travail qui est assez difficile parce que c'est très bien dans la plupart des projets CRM, il y a 70% d'échecs, c'est un peu des chiffres qui tombent, mais bon, pour avoir mis un CRM en place avant, je confirme, c'est extrêmement compliqué. Le banquier a du mal aussi à fournir ses données sur ses clients dans le CRM, donc il y a énormément de change, mais j'y vois énormément aussi de vertus, l'aide au pilotage du banquier. Donc avec des alertes automatiques qui lui sont envoyés pour lui dire bah, tiens, là, tu pourrais appeler ton client parce que, rappelle-toi, il t'a dit qu'il était intéressé par ce sujet-là. Et toi, ça tombe bien, tu es en train d'organiser un événement sur ce sujet avec d'autres clients donc tu pourrais l'inviter. Et ça, honnêtement, le banquier ayant de plus en plus de clients à gérer, pouvoir l'aider avec un CRM, ça a beaucoup de vertu. Encore faut-il mettre la donnée. Donc, il y a de la donnée de plus en plus qui est aussi de la donnée, je dirais, qu'on considérait un peu comme accessoire hier et qui devient primordial aujourd'hui, c'est toutes les données de centre d'intérêt du client. Parce qu'on met aussi sur la proposition de service autre, on en parlera, je pense, qu'il y a une question là-dessus. Donc voilà, donc pour le client, ça a un intérêt parce qu'on lui propose évidemment des informations qui ont de la valeur pour lui, qui sont personnalisées. Puis il est peut-être aussi moins noyé dans tout un set d'informations. Aujourd'hui, il est noyé parce qu'il va regarder les marchés, mais il est noyé aussi parce que son banquier lui envoie pas mal d'informations. Alors on va pas dire au banquier que c'est pas bien de le faire, mais c'est mieux de le faire quand il veut. C'est très focus sur les centres d'intérêt du client. Et en fonction aussi, je dirais, de la personnalité du client, il y a des clients qui ont besoin d'être rassurés. Donc il faut les appeler régulièrement. Et justement, le CRM sert à ça, sert à comprendre les habitudes de ce client-là et les mettre dans un CRM, comprendre les usages. Le client n'est pas forcément obligé d'être embêté, il faut le savoir aussi, il faut le modifier dans un CRM. Donc le CRM, c'est vraiment la pierre angulaire demain, avec tous les risques que ça comporte et tous les challenges. Donc ça c'est le gros projet qui finirait sur le troisième, qui est celui d'avoir une vision consolidée du patrimoine du client et de sa vie familiale. Donc là on travaille avec le groupe Crédit Agricole, donc avec les caisses et LCL, les caisses régionales et LCL. Puis en France on a la particularité aussi de distribuer nos offres par le retail. Et donc ce sujet-là, on va être beaucoup plus sur la capacité de faire une agrégation de son patrimoine, de pouvoir le laisser, alors ça j'y crois beaucoup, de pouvoir laisser le client lui-même mettre ses données, les actualiser, pas laisser le banquier le faire parce que sinon ça prend trop de temps, parce qu'on ne voit pas son client tout le temps non plus. Du coup, laisser la main au client sur ses données et lui donner aussi, parce qu'il doit avoir un intérêt à mettre ses données et à les mettre à jour régulièrement, lui donner des outils de simulation pour qu'il joue aussi avec certains paramètres, lorsqu'il change ce paramètre-là. Je donne souvent un exemple très simple, mais quelqu'un qui est marié et qui a une grande fortune peut souvent se poser la question, quand ça ne va plus avec sa femme, l'impact sur son patrimoine. Bon, bah, aujourd'hui, on est capable de montrer l'impact sans qu'il puisse ait besoin d'appeler son banquier et de détailler sa vie amoureuse. Il peut aussi jouer avec ça dans sa simulation. Voilà, c'est aussi ça qu'on a envie de donner demain aux clients. Je donne aussi souvent une comparaison, mais quand on cherche un appartement, aujourd'hui beaucoup de gens vont sur meilleurtaux.com pour simuler en avance combien je peux emprunter, avoir un certain nombre de réponses avant d'appeler leur banquier. Là, c'est un peu la même chose, c'est aussi laisser l'autonomie aux clients. Ça, j'y crois beaucoup et évidemment, vous voyez que au milieu, on a toujours le CRM comme pierre angulaire pour la captation de la donnée.
Donc, si je synthétise, on a trois grands projets: l'entrée en relation, le CRM, l'agrégation du patrimoine de son client.
Exactement.
Et les enjeux pour vous en tant que banque, c'est faire gagner du temps à la fois au client et au banquier, enfin gagner en visibilité, et le banquier en particulier l'aider à gérer son quotidien et sa relation avec son client via ses nouveaux outils. Alors, tu disais que d'après toi, la plupart des banques privées sur le secteur ont sans doute les mêmes enjeux et les mêmes projets. Donc, on va voir tout de suite si c'est le cas avec François-Henri. Est-ce que tu confirmes?
Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, je confirme, effectivement, on a à peu près les mêmes problématiques, notamment d'optimisation des processus, de digitalisation. Alors je ne sais pas si c'est digitalisation ou outillage, en tout cas c'est sûr que la donnée, on doit la traiter probablement mieux que ce qu'on fait jusqu'à présent. Et on doit aider, comme je disais, Sabrina, nos banquiers à être plus proactifs et plus... en situation d'exploiter cette donnée, donc on n'utilise pas forcément très bien. Ce que je voudrais en fait illustrer au travers de trois exemples, c'est en quoi pour nous la connaissance client, qui a toujours été un élément fondamental dans l'exercice du métier de banquier privé, elle peut être aujourd'hui optimisée, travailler différemment grâce aux nouvelles technologies et aux nouveaux outils. Notamment, chez Société Générale Banque de France, nous avons lancé deux projets de solutions qui sont aujourd'hui Côte d'Azur, on ne sait pas si c'est un peu la bonne. On va surtout dire que c'est une solution de conseil en investissement, une solution digitale de conseil en investissement qui s'appuie sur les données clients, qui s'appuie sur ce que possède réellement le client. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la poche assurance vie. On va développer ça également sur le bon titre, le PEA. Mais l'idée, c'est de pouvoir effectivement utiliser les vrais tutos de ce qu'est le client, ce qu'a le client, pour lui proposer régulièrement, de façon automatisée et personnalisée, j'insiste bien sur le terme personnalisé, des solutions, des propositions d'arbitrage qui tiennent compte évidemment de son orientation de gestion et qui surtout lui laisse la main pour décider ce qu'il veut faire. Donc, soit effectivement accepter les propositions, seulement une partie, voire possiblement choisir d'autres usées, d'autres fonds qu'on peut lui proposer. L'idée, c'est vraiment au travers de la donnée client, donc de ce qu'il détient, de personnaliser complètement le projet tout en assurant une automatisation, une personnalisation régulière de cette prestation. Le deuxième point, en fait, le deuxième projet, qui n'est d'ailleurs plus un projet, qui est une solution aussi de live depuis décembre 2018, elle est fondée justement sur l'agrégation d'actifs. Il y a déjà deux ans et demi, on s'était dit qu'il fallait pouvoir trouver un moyen de parler autrement à nos clients et de personnaliser encore une fois, de contextualiser les expertises. Donc, je vais faire rapide, hein, je sais, Marc, je suis de là. Le sujet, c'est donner aux clients les moyens d'avoir une vue 360 de son patrimoine. Donc, évidemment, comme vous en doutez, on utilise le web scraping et on a intégré dans notre e-banking, hein, sur le site internet et sur l'application BIA, une solution qui permet aux clients d'avoir cette vision consolidée des actifs financiers, non financiers, des crédits évidemment. On a fait ça, mais évidemment, l'agrégation d'actifs, la création de données, ce n'est pas une fin en soi. C'était pour nous le socle pour poser nos expertises. Et depuis déjà maintenant juillet dernier, nous avons intégré un outil d'analyse de l'allocation d'actifs, qui est l'outil que nous utilisons au quotidien, les banquiers et les investisseurs consultants, pour travailler cette allocation d'actifs, pour pouvoir analyser, upgrader les connaissances de nos clients, leur donner, mettre entre les mains, et ça c'est un peu révolutionnaire chez nous, mettre entre les mains de nos clients un peu notre expertise, qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. Et là encore, en fait, on personnalise complètement la relation, l'expertise, la relation avec nos clients, dans la mesure où les informations qu'on lui donne, les indicateurs qu'on lui donne en tant que tel, sont des indicateurs qui s'appliquent directement à ce que les clients, à ce que peut le Et en fait, cette démarche-là, ce n'est pas juste du digital, c'est un élément qui concourt à un dispositif plus global qui permet à notre client soit d'initier, soit de relancer une discussion, une réflexion autour de la structure de l'actif financier. On va le faire aussi bientôt sur la partie plus globale patrimoniale. Et ensuite, effectivement, d'engager un dialogue avec le banquier pour passer à la phase conseil proprement. Le dernier point que je voudrais évoquer, et j'arrête pas, toujours autour de la gestion de données, c'est plus gros pour nous. C'est un projet qui consiste à travailler en machine learning pour analyser les données et étudier, essayer d'analyser plus souvent le comportement de nos clients en matière de gestion d'actifs, notamment en matière de délégation. Donc on peut essayer de travailler effectivement sur des données qu'on n'a jusqu'à présent pas eu l'occasion de travailler avec de nouveaux outils, pour déterminer dans quelle mesure on pourrait aider le banquier, à être plus fin dans le ciblage de son action commerciale.
Et donc je comprends qu'il y a un peu deux enjeux pour vous sur la partie gestion financière des avoirs du client. Il y a mieux l'aider pour ceux qui veulent être en gestion conseillée à prendre les bonnes décisions avec le projet dont tu parlais qui vise à faire une sorte de robot advisor, en tout cas sur gestion envoyée aux clients. Et de l'autre côté, il y a pour les clients qui seraient a priori plutôt enclin à passer par de la gestion discrétionnaire, aider le banquier à identifier ces clients-là pour donner un peu
plus. En l'occurrence, ces clients, ça c'est l'objet du poker en machine learning. Donc c'est effectivement très nouveau pour nous. Ça nécessite effectivement d'embarquer un certain nombre de gens et de fonds. On parlait tout à l'heure d'engager des collaborateurs. Je tiens également à préciser qu'en fait, toutes ces solutions, y compris le projet, ont embarqué des clients et des collaborateurs. Ce qui est aussi une des clés du succès de la solution.
Ça ouvre beaucoup de questions, mais avant d'y revenir, je vais quand même laisser la parole aussi à nos autres experts autour de cette table. Alors j'avais une question pour toi, Léonard, sur la partie justement robot advisor, et qui est une question un peu orientée à réglementation, parce que c'est quand même un des points qu'on doit prendre en compte. veux savoir si, de votre côté, FunShop, donc aujourd'hui fournit des solutions en B2B pour des institutions historiques du secteur. En quoi est-ce que vous les aidez, par exemple, potentiellement à mieux gérer sa réglementation? Et est-ce que vous avez un levier au niveau de la donnée du client? Est-ce que vous proposez des nouveaux modèles d'utilisation de cette donnée ou de récolte de la donnée? Donc, on va en parler après avec Brice, avec Clément. C'est une question assez large.
Oui, alors merci, bonjour à tous. Effectivement, je suis très content que tu précises qu'on n'est pas un robot advisor au sens propre du terme, puisqu'on a évolué très rapidement après notre lancement il y a 7 ans maintenant, avec un positionnement B2B. Donc un robot advisor B2B, qu'est-ce que c'est? C'est un éditeur de logiciels, en fait, simplement qui accompagne les acteurs traditionnels dans la digitalisation de leur activité ou service des clients, avec trois composants: le conseil en investissement financier, la mise en conformité et tout le traitement de la donnée au niveau de la collecte et également au niveau de la gestion des données. Tu évoques le sujet de la réglementation. Effectivement, c'est un gros driver. Hein. Vous savez que la réglementation a énormément évolué ces dernières années. Ce renfort devient de plus en plus contraignant, hein, notamment au niveau de la donnée. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'obligation, lorsqu'on est une exercice d'activité de CIF ou de DIA, hein, donc ce sont en général, les distributeurs de produits d'épargne sur le marché français, avant de faire n'importe quel acte de vente, avant de faire n'importe quel acte de conseil, de connecter un certain nombre de données, hein, ce qu'on appelle à faire les démarches, les étapes de connaissance client, qui peuvent être assez rébarbatives lorsque l'on est un acteur humain face à son client, hein, qui bah, historiquement le fait avec un papier, un crayon, ça peut prendre énormément de temps. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on a la capacité de rendre cette étape-là un peu plus, je dirais, ludique, un peu plus simple, un peu moins time-consuming, et éventuellement de la séquencer de manière intelligente. Hein, ce n'est pas un parcours rectiligne dans lequel on commence à travailler avec son client et pour lequel on nécessite plus d'une heure d'attention de son client face à face. C'est quand même dommage, hein, on préférerait consacrer un temps avec davantage de valeur ajoutée lorsqu'on en face de son client. Ça prend ce que Sabrina a évoqué, le fait qu'on passe énormément de temps sur l'administratif, ce que les acteurs comme nous, donc les fintech, apportent, c'est effectivement permettre de dématérialiser, simplifier, digitaliser une grosse partie des obligations administratives, donc réglementaires, pour aider un conseiller à consacrer l'essentiel de son temps sur de la valeur ajoutée pour personnaliser ses démarches envers ses clients, contextualiser. Et finalement, bah, se valoriser lui-même par rapport à son service et valoriser sa marque vis-à-vis de son segment, de son marché.
Et quand on parle du coup aujourd'hui de digitaliser cette partie de profiling du client, donc ça rejoint d'ailleurs un peu l'entrée en relation dont tu parlais tout à l'heure, Sabrina, est-ce que votre vision à tous les trois, je redis un peu, c'est plutôt de dire, donc d'une part, on va rendre ça plus simple, plus ludique, pour que le client comprenne finalement pourquoi il pose ses questions et que les questions soient plus simples pour lui et plus simples d'accès. Est-ce que vous verrez cette étape plutôt en amont d'un rendez-vous, c'est-à-dire on autonomise le client, qui est capable de la réaliser tout seul et qui ensuite vient pour regarder le résultat pour être son banquier, ou est-ce que le but, ça reste quand même de le faire en face à face avec le banquier, mais de gagner du temps et d'être plus efficient dans sa réalisation? Pour les trois, vous allez dire.
Ouais. De mon point de vue, on s'adresse à un certain nombre de clients qui ont des visions un peu différentes. Des segments de marché un peu différents, hein, du très retail, du super high net worth. Il n'y a pas de règle. Hein. Chaque client est assez unique, bon, c'est facile à dire, mais effectivement, on a besoin de flexibilité dans ces parcours. Donc on peut pouvoir débrayer entre du 100% en rendez-vous physique face à face à du conseil à distance à du quasi 100% self-care. Hein, donc les solutions aujourd'hui, la technologie permet d'avoir cette flexibilité au niveau des parcours. Et ce que nous, on développe, c'est évidemment en architecture ouverte et avec énormément de flexibilité sur les modèles d'interaction avec le client. Hein, donc, il y a des clients qui sont très digitaux, par exemple, qui ne le font pas du tout. Et bah, quand on fait un rendez-vous client, évidemment, le client parfait qui arrive avec tous ses documents prêts à être scannés au PD, ça n'arrive jamais. Donc, il faut pouvoir faire séquencer, avoir des étapes à distance.
Moi je rejoins complètement ce que dit Léonard. Et en fait, dans nos dispositifs, notamment digitaux, on va s'attacher, on a encore une marge de progrès, à faire en sorte que justement le c'est l'évaluation. Parce qu'on considère que, et puis, à l'onboarding, j'entends, à l'entrée en relation, c'est une étape qui est fondamentale et importante et qu'on inscrit aujourd'hui dans un processus d'échange, de discussion avec le banquier en face à face. Alors, donc, on considère en tout cas aujourd'hui que c'est un élément trop important pour laisser entre les mains du client, non pas que le client ne soit pas capable de le faire, mais parce qu'on veut pouvoir effectivement apporter toute l'expertise humaine, la réassurance humaine dans la détermination de l'évaluation qui va aussi conditionner la suite de la relation. Encore une fois, effectivement, on est en train de regarder comment on va pouvoir mettre à disposition des équipes de mise à jour. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est notre position. En tout cas, sur cette partie.
Ok, merci à tous les trois. Maintenant, je vais me tourner vers vous, Clément et Brice. On va revenir un peu sur le sujet agrégation et vision patrimoniale globale du client. Là, j'ai envie de poser une question très ouverte, parce qu'il me semble que vous avez travaillé ensemble en plus sur une offre. Quelle est la vision pour vous de cette intégration d'une vue globale du patrimoine du client dans le rôle d'un conseiller financier d'un côté. Et puis une deuxième question qui est peut-être plus pour Clément, mais je sais que vous avez une idée là-dessus. Là, on va parler de données bancaires, donc récupérer les avoirs des clients qui sont situés dans tous les établissements financiers. Quel est pour vous le trend sur la possibilité de récupérer ces données, la facilité de récupérer ces données, et comment est-ce que vous voyez les quelques années qui viennent de passer et la façon dont ça va évoluer dans les années à venir? Évidemment, là, je vais en tête des SP2 et éventuelles conséquences.
C'est une grosse question. Alors, d'abord, je vais répondre à la question de l'extrait des données, mais avant de répondre à cette question-là, il y a pour moi un sujet qui me paraît fondamental et je suis très content que mes camarades de cette table ronde l'aient abordé, c'est de dire que la récupération de la data, le flux de data, le stockage de data n'est absolument pas une fin en soi. Et donc, GPT-7 n'existe que parce qu'il y a des gens comme Funshop ou des gens comme Harvest qui vont au contact du client exploiter cette donnée pour créer de la valeur à travers un parcours, permettre au client de réaliser ses projets. Et donc, moi j'ai beaucoup de clients, mais je connais bien ça et je trouve que c'est vraiment symptomatique de mon métier. Il y a vachement de traîne sur la récupération de la data, tant mieux, on peut gagner l'argent, mais au final, les gens viennent me voir en me disant Monsieur le Père, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et on me dit non, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est moi qui pose les questions, c'est pas vous, parce qu'en réalité, moi j'ai pas d'idée, je vais récupérer la data, je la récupère si vous voulez, mais si vous ne savez pas ce que vous voulez en faire, vous n'êtes pas dans le parcours client, l'expérience client que vous voulez créer, alors il ne va rien se passer. Je vais prendre votre argent, il ne va rien se passer pour vous. C'est quand même dommage. Et donc c'est fondamental. Et plus on avance, plus on se rend compte que les partenariats entre les sociétés comme la NEM, de Harvest ou de Finshop, vraiment, les clients, c'est vrai que c'est pas le cœur, il va revenir. Donc, c'est fondamental parce que, encore une fois, la récupération de data n'a aucune valeur si derrière il n'y a pas de client. Et ce qui est aussi intéressant à noter, moi j'aime beaucoup, même quand on projette dans le passé ou quand on projette dans l'avenir, et j'ai fait des tables rondes en 2013-2014, avec un camarade qui disait Jamais t'auras la data et ça n'est pas de chaque pirate. Et aujourd'hui, il parle de où nous pouvons donner la donnée pour les clients, la perception de l'œil, peu importe le domaine qu'il a ailleurs, au contraire, on le voit et on le sait, et comme ça on peut les dire, et j'adore cette vision, ça va très bien, je suis très heureux que ça ait été dans ce sens-là, je pense que ça ira de plus en plus dans ce sens-là. Malheureusement, là je voudrais réagir à ce que j'entends, parce que moi, à chaque fois que je fais table ronde, je sors de table ronde en me disant mais c'est un monde merveilleux, on peut tous collaborer, et c'est absolument fabuleux, et la donnée est ouverte, on permet à récupérer, de la sécuriser, de la mettre en position et de créer beaucoup de créer des parcours qui sont extraordinaires. C'est fabuleux. Sauf qu'en fait, ça c'est la façade, c'est le maquillage, et quand on l'a, derrière, il y a la conformité, et le mini, et à la fin, la donnée, on essaie de la museler encore et encore et encore et encore. Pour des raisons, j'imagine, de retard, de volonté de suivre un train que la produit pour les banquiers, mais je pense que c'est profondément contre-productif. Et donc, encore une fois, dans les tables rondes, j'ai l'impression que c'est un monde merveilleux, on s'entend tous, mais il y a vraiment des enjeux et des complexités. Parce que là, on est amis, et quand on est en tant que régulateur, une destruction mutuelle est absolue. Vraiment, c'est très agréable. Moi, j'ai beaucoup de mal à vivre, pour être honnête. La relation avec mes clients, qui sont parfois les CEO, des banques, des assureurs, qui me disent c'est pas mieux, peut-être que là-bas il y a beaucoup plus de data, plus de data, plus de data, ils vont aller chercher plus de données, des gens comme Brice, ou alors Brice c'est un peu ça, parce que c'est pas un banquier, mais je veux dire, les assureurs, non mais je suis en fait, les assureurs qui me disent plus de data, plus de data, on veut plus, et à la fin, quand je suis face à ces mêmes personnes, la même personne face au régulateur, et ils mentent sur ce que je fais, sur le risque, le prix, c'est complètement fou cette schizophrénie. Donc moi, ce que j'invite fortement mes amis de la table ronde à faire, hein, aussi liés au consort, c'est vraiment qu'il y a le premier enjeu pour moi. Alors bien sûr, c'est de savoir où on va, mais j'ai l'impression que maintenant, les banquiers et les assureurs savent où ils veulent aller. Les gens comme Argos ou Ponchois, vous êtes beaucoup à ça en disant vous avez des typologies très différentes. Vous devez développer des parcours clients qui soient pas forcément fondamentalement digitaux. Et le meilleur parcours client, c'est celui qui plaît aux clients. Vous n'avez pas besoin sur vous faire,
oui, on
de, créer de la valeur dans votre parcours. Et s'il veut du cas, vous, comme je disais, s'il veut le cas, vous pouvez le faire. S'il veut de la relation avec les êtres humains, et bien c'est les êtres humains, à vous derrière de développer. Mais, en effet, vous avez un enjeu avec de circulation de la donnée. Et cette donnée-là, vous ne pouvez pas continuer à la comprimer, à la stopper en permanence pour des raisons de sécurité. Moi, je suis quelqu'un de paiement, hein, je suis un petit banquier. Hein. Donc, moi, j'ai ACPR sur le dos, j'ai l'arrêté du 3 novembre 2014, j'ai tout comme tout le monde. Hein, donc, faut arrêter de m'embêter avec ça. La donnée est déjà sécurisée, je suis régulé. Donc, laissez-nous bosser pour vous permettre, vous, de créer des nouvelles valeurs. Moi, ce qui me dit, je vais m'arrêter parce que je suis là-bas aussi. Mais, mais ce que je trouve phénoménal, c'est qu'en fait, les banquiers et les assureurs ont très très peur de l'avenir. Je peux comprendre parce que c'est une transformation absolument majeure, l'open banking et cette ouverture de la donnée. C'est de leur point de vue, je peux comprendre. Avant, le banquier s'est toujours vu comme un coffre-fort. C'est pas faux. C'est un coffre-fort. Et ce qui veut dire, c'est que c'est un coffre-fort physique, on ouvrait, on allait chercher les lingots, et voilà. Ensuite, c'est devenu de la donnée. Bon. Du coup, c'est un coffre-fort, mais c'est que pour créer de la valeur à la donnée, il y a des choses. Et ça, du coup, il y a un vrai problème culturel. Hein. Moi, je pense que c'est même pas un problème de personne, c'est un problème de culture. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, je vais dire en termes un peu mais c'est il y a beaucoup de pognon à faire. En gros, c'est putain de monnaie. Excusez-moi, mais c'est vraiment. Et vraiment, je vous jure qu'en gros, vous avez peur de votre compte, vous avez peur de votre avenir, vous avez peur de l'en gros, vous avez gagné beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Tout ça coûte très très cher. Tout ce papier, toute cette conformité. Bon, si vous nous laissez bosser avec vous, avec des gens comme Arbus, avec des gens comme Shop, et en écoutant en plus les CEO quand ils parlent de Pablo, les gens qui sont moi, et bien, on va vraiment créer beaucoup de valeur pour les clients et beaucoup d'argent. Ouais.
Trois réponses.
Juste pour réagir. Moi, j'ai le sentiment que les choses sont en train de changer. On est, comme je le disais, ça fait deux ans et demi maintenant qu'on travaille sur ce sujet avec l'application d'actifs. Alors, je vais parler peut-être en bon nom, Marc, c'est de quoi il s'agit, parce qu'on travaille ensemble sur ce sujet. On est convaincus, je suis convaincu que l'exploitation de la donnée est fondamentale et que de toute façon, inévitablement, on va tous vers cette circulation de la donnée. Voilà. Donc, effectivement, comme tu dis, Clément, je pense qu'il y a un sujet culturel, il y a effectivement des sujets réels de sécurité. On est aussi quand même garant de la sécurité des données de nos clients, c'est ce qui nous confie le plus précieux, donc ça, on ne peut pas faire fi. Et je suis d'accord, on ne peut pas se réfugier derrière tout ça. On est d'accord, il faut laisser aussi peut-être des choses maturer. Et nous, en l'occurrence, je pense qu'on est en interne aussi en train de faire, d'illustrer ce que tu disais, c'est qu'on veut créer de nouveaux services pour les clients, de nouvelles solutions. En exploitant cette donnée, il n'y a pas que la donnée soit citoyenne après pour vous. Donc, oui, on peut être en phase et ça compte.
Merci à tous les deux.
Ils ont leur solution en interne aussi. Mais on va y revenir après. On m'a dit qu'on puisse me rester peu de temps et j'avais une question pour Brice qui va être justement un peu dans la suite logique de ce que tu disais, Clément, plus orienté sur les cas d'usage. Donc, Brice, la question c'était pour. Sur Arnest, est-ce que finalement ces capacités qu'apportent les délégateurs comme Clément, quels sont finalement les cas d'usage que vous avez identifiés côté Arnest ? En quoi est-ce que ça vous a permis de créer un nouveau service de nouvelles offres que vous proposez ensuite à vos propres clients ?
Alors, merci pour la question, mais je ne suis pas sûr que je vais répondre. Je voudrais reposer ici, parce que c'est un peu l'exercice auquel je me livre à chaque fois que je suis sur un plateau là depuis 12 ans. Le substrat sur lequel on travaille. En France, il y a à peu près 4
milliards d'épargne financière. Donc, 4 600 milliards d'épargne financière, il y a à peu près 75% qui sont dans du monétaire pur, des comptes courants bancaires, des produits livrés, etc. La moitié du patrimoine des Français est détenue par les 10% les plus aisés, qui sont traités pour partie en banque privée, pour partie en gestion de patrimoine et pour beaucoup d'entre eux dans les réseaux retail, parce que les Français, sont, bien que les banquiers refusent cette vision-là, sont, on leur épargne dans son établissement financier. En moyenne, en France, on a son épargne dans son établissement financier, un établissement bancaire, un établissement d'assurance vie, la plupart du temps de l'épargne salariale, et quand on est dans les populations aisées, c'est plutôt 4. Et il se trouve que les populations dites affluentes ont à peu près 450 000 à 500 000 euros d'avoir financier, et que les banquiers n'en vont en général que 100 000, ce qui les met sous les radars de la gestion de patrimoine et ce qui les fait traiter par le retail. Les seuls Français qui accèdent aujourd'hui à un service patrimonial de qualité, ce sont ceux qui sont en banque privée, parce qu'ils ont des interlocuteurs, parce qu'il y a des structures qui permettent, entre guillemets, de travailler pas pour cette clientèle-là, et à qui on fait des propositions d'épargne longue adaptée. Ce qui fait qu'aujourd'hui en France, on a un taux d'équipement en action, globalement en UC, d'à peu près, en action plus UC, d'à peu près 10%, essentiellement centré sur les populations les plus aisées. Ce qui fait que les réseaux de distribution, depuis maintenant une trentaine d'années, passent leur temps à vendre des produits courts, enfin des produits tôt avec des vocations d'épargne courte pour des gens qui cherchent à préparer des projets de moyens, de long terme, préparer une vie des enfants, etc. C'est une sorte, entre guillemets, de scandale depuis 30 ans. Et moi, j'ai entendu, alors je suis dans ce métier depuis une trentaine d'années, donc je reviendrai après, mais j'ai déjà entendu à cette tribune des patrons de retail m'expliquer que quand on vendait du livret on ne pouvait pas mal agir parce que de toute façon c'était bien pour les clients. Alors c'est vrai, dans des périodes de taux à 3%, dans des périodes de taux où le rendement du livret A est un taux négatif, c'est limite scandaleux, c'est limite mystérieux ce truc. Donc il faudrait pouvoir placer les gens sur des horizons qui correspondent aux échéances qui sont données dans un projet de discours fréquent. L'enjeu pour moi de la démocratisation du conseil, c'est bien ça, c'est le digital doit pouvoir apporter ces éléments de réponse. J'ai un autre élément que je voudrais apporter à votre réflexion, c'est qu'en France, il y a des banques généralistes qui ont une activité retail, qui ont une activité gestion de patrimoine, une activité banque privée, et il y a des banques pures banques privées. Est-ce que vous connaissez une seule banque qui ne fait que du retail? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas rentable. Parce qu'il y a beaucoup de flux, parce que la seule façon de rémunérer, entre guillemets, l'activité, c'est de le faire sur de la commission, sur des flux clients. La rentabilité, elle se fait sur les stocks. Or, on a vu tout à l'heure que les stocks, ils sont sur les gens les plus aisés. Ce qui fait que les banques privées gagnent de l'argent, ce qui fait que les sections banques privées des banques généralistes en France gagnent de l'argent, et ce qui fait que le PNB, entre guillemets, et la rentabilité des établissements bancaires en France est à 30, 40, voire 50% chez certains, lié à cette activité-là. L'open banking, dans un premier temps, et la capacité d'agrégation, ça va servir à permettre à la banque privée qui est effectivement assassinée par la réglementation aujourd'hui, avec des obligations dans tous les sens, ça va permettre de digitaliser plein de process, de faire que les traitements manuels qu'on faisait traditionnellement auparavant deviennent des traitements automatisés, de manière à améliorer le ratio d'exploitation des établissements et à diminuer le coût des charges qui pèsent sur le client. En moyenne, aujourd'hui en banque, on a à peu près, en banque et en assurance d'ailleurs, on a à peu près 3,5 de charges qui pèsent sur l'exploitation. 3,5 de charges sur les actifs gérés, avec des taux de rendement moyen aujourd'hui des actifs long terme qui sont à 3-4%, ça veut dire qu'on sert à peu près du zéro net au client. C'est quand même compliqué. Donc, arriver à baisser ces éléments de charge, ça permet de renvoyer de la rémunération financière. Quand même, il y a l'enjeu de fond. L'enjeu, enfin, la survie de nos établissements, enfin, de vos établissements, passe quand même par la satisfaction du client. J'ai l'impression que, très longtemps, on a tendance à l'oublier. Et donc, dans le premier temps, on a besoin de ça pour la gestion privée. On a besoin de ça pour la gestion privée parce que naturellement, ce sont des gens qui sont multibancarisés, naturellement, il y a des familles d'office, etc., etc. Maintenant, si on veut passer la frontière de la démocratisation du conseil, il faut arriver à ce que ces processus digitalisés servent aussi la clientèle intermédiaire. Et ce n'est pas parce que j'ai une épargne de 10 000 euros sur l'ensemble de ma vie que pour autant, je n'en ai pas la moitié qui doit être placée dans, et pas sur du livret A. Et pour faire ça, je pense à une autre escroquerie actuellement qui on en parle beaucoup, le meilleur dans le pouvoir public qui se sont emparés, qui est l'éducation financière du public. Apprendre aux gens à placer leur argent en carte. Et sérieusement, quelle connerie! Dans les faits, ce qu'il faut éduquer financièrement, c'est les réseaux de distribution. Vous allez dans n'importe quel agent bancaire aujourd'hui, qui va vous intéresser, je vous donne mon placement. Donc, ça ne marche pas ce truc. Donc, on ne peut pas demander aux clients de faire notre place. Donc, ici, il y a un rôle évident que le digital peut apporter. Le digital peut permettre à la fois de modéliser la donnée en agrégation, permettre de classer toutes les données financières sur un bon classement d'actifs, mesurer les univers de risque et gérer les horizons de placement sur les projets clients. Pour moi, c'est naturellement ce vers quoi je dois s'orienter cette industrie. Ça fait 30 ans que je fais ça, ça fait 30 ans que je fais de la gestion de patrimoine, que je propose des outils dans un premier temps, que je fais de la saisie manuelle. Petit à petit, c'est ce qu'on appelle cette révolution digitale d'aujourd'hui. En fait, c'est une longue évolution qui nous permet petit à petit d'améliorer la productivité de nos services et de réconcilier, entre guillemets, les objectifs du client avec les intérêts financiers des banques. Or, aujourd'hui, et c'est un peu ce que tout le monde évoqué dans son papier de position, la réglementation est souvent une sorte de justification à surtout, je ne veux pas que les choses changent parce que concrètement, je vois dans le retail, la DSP2 par exemple sur les problématiques d'authentification forte, c'est une sorte de prétexte qui est pris pour empêcher effectivement la donnée de sortir au nom de toute façon, la clientèle retail en a besoin que compte de paiement. Et les gens dans les structures informatiques ou les juristes ou les gens d'alimentation commencent à réfléchir parce que c'est là qu'il y a plus de flux, oublient complètement que le PND se construit sur les actifs financiers et pas du tout sur les mouvements. Donc si on veut tous survivre, il faut quand même mettre les priorités au bon endroit. Et pour moi, la bonne priorité, c'est de libérer la donnée comme l'a dit Clément et de permettre aux clients de gérer correctement son patrimoine, quel que soit son niveau de patrimoine.
Merci Fabrice. On vous précise depuis tout à l'heure qu'on est allé au bout du temps qui nous était imparti. Il y avait beaucoup de sujets que tu as évoqués sur lesquels on aurait aimé pouvoir continuer cette discussion. On ne fera pas autour de cette table ronde, mais évidemment, si vous avez envie de parler avec nous, n'hésitez pas à en parler si vous nous reprenez ce matin ou sur LinkedIn pour rester dans le digital. Disposé à continuer la conversation. Donc, il ne me reste qu'à vous remercier tous pour votre intervention. Merci à Finance Innovation de nous avoir accueillis. Je me rends compte que je ne me suis pas présenté, donc je vais le faire à la toute fin. Donc, moi, je travaille pour un cabinet de conseil qui s'appelle Chapu Elder et qui donc a eu le plaisir de travailler avec la plupart d'entre vous sur certains des projets qui vous animent. Donc, n'hésitez pas à venir continuer cette discussion avec nous après et encore merci pour votre intervention.